Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Mes femmes d'aujourd'hui évoluent. Une femme à qui j'ai pu parler bien hier peut avoir une nouvelle histoire à raconter aujourd'hui. Encore plus quand on s'est parlé il y a 3 ans. Et c'est exactement le cas avec ma femme d'aujourd'hui. 3 ans après, qu'est-elle devenue ? Eh bien, je vous propose d'aller une nouvelle fois à sa rencontre. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Latef Fachey, bonjour.
Bonjour, je suis très heureuse de revenir avec toi.
Merci beaucoup parce que en faisant mon introduction, Latef Fachey, bonjour, c'est un air de déjà entendu, de déjà dit, de déjà vu pour moi, de déjà vécu. Oui. Mais en fait, c'est une nouvelle interview que l'on fait quelques années après la première. Parce qu'une femme d'aujourd'hui n'est jamais statique, c'est une femme en évolution. Et la femme d'aujourd'hui, c'est celle qui est aujourd'hui. Demain, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Et c'est pour ça que quand je découvre des nouveautés chez mes femmes d'aujourd'hui, d'avant, eh ben c'est toujours un plaisir pour moi d'aller échanger avec elles sur l'évolution de leur parcours suite à notre dernier échange. Alors justement, Latef, suite à notre dernier échange, qu'est-ce qui s'est passé ?
Écoute, il s'est passé énormément de choses et d'abord l'encouragement de mes lectrices et de mes lecteurs qui m'ont invité à prendre la plume de nouveau et cette fois-ci à aller un peu plus loin par rapport à Sois une femme, ma fille que j'avais donc écrit et sorti en 2020. Et là, je propose d'accompagner les lectrices et les lecteurs dans le parcours d'une femme qui s'appelle Zahra Layoun.
Ah, Zahra, le prénom de ma fille.
Et le prénom de ma grand-mère, Larhama.
Incroyable.
C'est un prénom que j'affectionne énormément, pour plein de raisons. Zahra, c'est aussi la chanceuse. Et c'est tout ce que je délie, c'est tous les fils que je tends à travers son histoire pour justement continuer cette aventure littéraire et aller encore plus loin, puisque là, je bascule du récit autobiographique à la littérature à travers une fiction. Une fiction très vraisemblable, incrustée dans la France et aussi quelque part le Maroc d'aujourd'hui, pour raconter à travers un personnage fictif l'histoire des femmes que nous sommes et de ce à quoi nous aspirons.
Ok.
Et ça donne C'est pour demain, justement.
C'est pour demain. Alors, on va revenir justement, on remonte à 2020, ça serait bien. Et nous, on s'était parlé en 2022, je pense. 2022,
oui.
2020, voilà. Okay. Et en fait, on avait fait connaissance, enfin, je t'avais contacté suite à Sois une femme, ma fille, pardon, d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale. Ça serait bien peut-être qu'on remette notre communauté qui s'est agrandie depuis et peut-être qui n'a pas eu l'occasion d'écouter ce podcast soit sur Médien Podcast, soit sur Spotify, etc. Revenir à l'histoire de ce premier livre, de ce récit autobiographique.
Oui, de ce récit autobiographique qui a la particularité suivante, c'est qu'il est un monologue que j'adresse à la droite de mon cœur, à savoir ma mère. Et je lui raconte à elle, en tenant sa main, l'expérience que j'ai vécue d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale, puisque ma mère, souffrant d'une maladie totalement invalidante et handicapante, n'a pas pu, d'une certaine façon, vivre avec moi ce que j'ai vécu à travers la politique. Et donc, je lui raconte à elle ce qui m'est arrivé. Et comme tu le sais, s'adresser à sa mère, c'est le faire sans filtre, sans tabou. Et avec une sincérité totale. Donc, je lui ai raconté vraiment tout ce qui m'est arrivé, tout l'envers du décor du monde de la politique, avec ses bienfaits, puisqu'il y en a énormément, mais aussi avec ses parts d'ombre et de difficultés. Donc, je lui restitue, autant que faire se peut, l'expérience qui a été la mienne pendant de nombreuses années. Et contre toute attente, ce récit autobiographique a rencontré un grand succès. Il m'a permis pendant plusieurs années, jusqu'à encore l'été dernier, mais même encore aujourd'hui, de pouvoir aller à la rencontre d'un public dont j'ignorais l'existence.
Un public maghrébin, surtout.
Très investi. Maghrébin, mais pas que.
Mais pas que, oui.
Puisqu'il a donné aussi ce livre, Sois une femme, ma fille, m'a permis de créer des formations donc sur la question de l'engagement et de la citoyenneté, parfois aussi sur la question de l'empowerment féminin. Que ce soit en France, en Belgique, en Espagne, au Maroc évidemment, mais aussi au Canada, à travers, grâce à des visioconférences, d'être touché à un public très très large, maghrébin, marocain évidemment, mais pas que. Mm. Et c'est ça aussi la force de ce récit, il a un côté universel. À partir du moment où on s'imagine parler à sa mère, je crois que chacun peut faire cet exercice-là. Et c'est peut-être, et c'est même sans doute, cette proximité qui a permis en réalité le succès, bah, tout relatif de ce livre-là, oui. Et qui m'a encouragée à reprendre la plume après.
Alors,
et donc, je raconte justement oui. à ma mère mon expérience politique. Je suis arrivée à l'âge de 23 ans au conseil municipal de Romans-sur-Isère. Je suis devenue maire adjointe et pendant deux mandats, à savoir 12 ans, j'ai servi ma ville de naissance, Romans-sur-Isère, dans le département de la Drôme, en France.
Alors, on remet tout ça dans son contexte. Pourquoi d'une tour à HLM au deuxième tour d'une élection nationale? C'est parce que tes parents, la TEFA, sont arrivés... Tu es née au Maroc ou en France?
Mes grands frères et sœurs sont nés au Maroc. Moi, je suis arrivée dans le ventre de ma maman.
Okay.
Je suis née à Romans-sur-Isère en juin 84.
Ok. Et soit une femme, ma fille, ça c'est, je me rappelle bien, c'était une phrase de ton papa.
Exactement. Kouni Mara Benti.
Kouni Mara Benti.
Exactement.
C'est beaucoup plus fort. Oui, bien sûr. Écoute, je garde une part de mes femmes tout le temps dans ma tête.
Cette phrase-là, mashallah, elle est très puissante. Et je me souviens d'un échange avec un public qui n'était pas arabophone, donc j'avais prononcé la phrase en darija, Kouni Mara Benti, et j'ai eu une interpellation dans le public en me disant « Mais est-ce que ce n'est pas une injonction à être forte alors qu'on a aussi le droit à notre part de faiblesse ?» Et j'avais trouvé cette question très intéressante. Et j'avais donc expliqué qu'à ce moment-là, cette phrase n'est pas une injonction à la force ou au courage, elle est une déclaration de confiance de mon père. Quand il me dit « Kouni Mara Benti »,
c'est que tu en es capable.
Dit, je sais que tu es capable. Exactement.
Ouais.
Tu as la capacité d'eux, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Ouais.
Et c'est surtout ça en réalité, cette phrase, elle est puissante parce qu'elle est une déclaration de confiance. Il n'y a pas de doute là-dedans, il n'y a pas non plus d'injonction dans la façon d'être une femme. Tu sais ce que tu dois être. Et c'est ça que traduit cette phrase que tu as dû entendre, que nous entendons et sans doute que ta fille également entend. C'est une phrase vraiment avec un héritage, elle est un héritage à elle seule, elle est très forte dans la déclaration et contenu qui est la sienne.
Alors, quand tu dis que ta fille doit entendre, je ne sais pas si cette nouvelle génération, on arrive à leur dire ce genre de choses. Hein. En fait, on les prend tellement avec des pincettes. Tu es d'accord ou pas? Enfin, je ne sais pas si des fois on en fait trop. Oh là là, je ne sais pas. Ça, quand tu l'as
c'est
dit,
pas,
ça.
C'est pas évident.
C'est pas évident,
effectivement. Ouais. C'est vrai. Et c'est là que la littérature, elle est un outil supplémentaire à disposition des parents ou de celles et ceux qui offrent une éducation et une instruction. Parce que on est aujourd'hui dans le temps rapide, dans la superficialité, dans l'artificiel, dans la punchline, dans les vidéos TikTok qui font moins de 30 secondes pour être vues, dans le scrollage en continu. Et la littérature, elle va venir offrir un temps. Alors, encore faut-il y aller, la littérature, et c'est tout l'objectif de la médiation culturelle et littéraire à laquelle j'essaie de prendre part. Mais justement, cette littérature, elle va venir casser cette injonction à la rapidité et elle va offrir un temps de réflexion. Soit une femme, ma fille, c'est un titre, mais s'il n'y a pas les quelques centaines de pages que je prends le temps d'écrire, c'est difficile, on ne peut pas l'interpréter comme ça. Il y a un accompagnement, il faut prendre ce chemin qui est un temps qui permet la nuance, qui permet la réflexion, qui permet le questionnement, pas forcément les réponses d'ailleurs, mais le questionnement. Et se poser les bonnes questions, c'est déjà répondre à 50% des défis. Et c'est ça qui est vraiment très important, donc je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que c'est facile? Alors, je crois que non. Par contre, il y a des outils à notre disposition qui sont plus ou moins adaptés selon l'époque, la période, l'âge de l'enfant auquel aussi on s'adresse. Moi, je sors par exemple d'une conférence la samedi matin devant une cinquantaine de lycéens. Ça a été extrêmement enrichissant. Ils avaient aussi plein de questions hyper intéressantes, justement sur la question du parcours, sur la question des identités, sur ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ne faisaient pas, comment ils interprétaient les paroles de leurs parents, peut-être aussi l'héritage de leurs grands-parents pour cette nouvelle génération. Et c'est hyper instructif. Mmh. Pas facile, mais il y a de la matière.
Ouais. Alors, la politique, c'est derrière toi ou ça a toujours sa place?
Alors, la politique, au sens noble du terme, elle ne me quitte jamais, puisqu'elle s'intéresse à nos vies, de notre naissance à notre décès. Maintenant, la politique partisane, elle est derrière moi, effectivement. J'ai décidé, avec Sois une femme, ma fille, de tourner cette page-là. Par contre, elle continue, mais différemment, plutôt sous l'angle de la citoyenneté, justement, oui. Et celle de l'engagement. Mm. Quels outils avez-vous à votre disposition pour prendre votre responsabilité de citoyenne et de citoyen? Et c'est là où je me trouve aujourd'hui pertinente, parce que j'ai une expérience, parce que je la transmets, parce que j'accompagne les questionnements de cette nouvelle génération, et que je leur donne quelques outils, et que parfois aussi, on essaye d'en trouver de nouveaux. Et c'est là où je me positionne aujourd'hui, alors toujours en tant que femme politique, mais plus du tout dans la dimension, on va dire, partisane. Je n'adhère à aucun parti politique. Je reste cette femme de gauche, puisque c'est comme ça que je me suis construite et que, pour moi, la question de la solidarité, de l'émancipation, elle est fondamentale et constitutive de ce que je suis. Et j'accompagne comme ça, à travers toute la France, des associations, parfois des collectivités, justement dans cette matérialisation de la citoyenneté. Mmh.
Alors justement, comme tu le sais très bien, le Maroc aussi connaît dans quelques mois des élections. Et à travers tes participations, tes rencontres au Maroc, est-ce qu'il y a aussi cette sensibilisation à la citoyenneté?
Très très souvent et très spontanément, cette question-là, elle revient systématiquement quasiment. Justement, comment vous vous êtes engagé, comment vous avez réussi à tenir, comment vous avez fait pour compter, pour que vos décisions, votre parole, elle compte. Et aussi, comment est-ce que vous avez réussi à exister en politique? C'est une question qui m'a été posée samedi matin. Mmh. Mais c'est aussi des questions que j'ai retrouvées quand je suis intervenue également au Maroc. Donc oui, très clairement, cette question, elle se pose, notamment parce que je suis aussi une femme. Alors, je me suis engagée très jeune, à l'âge de 23 ans. Et ces questions-là, elles reviennent parce que ça reste le monde de la politique dit comme ça. C'est presque effrayant parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne réellement. Vous n'avez pas un mode d'emploi de la politique. Vous pouvez faire les plus grandes écoles de la politique. La politique de terrain, celle qui va amener, qui va conduire à une élection sur votre nom, sur celle d'une liste, pour un gouvernement et ainsi de suite, eh bien, il n'y a pas forcément de mode d'emploi. Et c'est les expériences des uns et des autres qui va vous permettre peut-être à un moment donné de vous dire bah oui, je peux ou non, je ne peux pas, ou j'ai envie de le faire de telle ou telle manière. Et que ce soit au Maroc, avec les échéances qui arrivent, ou celles de la France, on sort des élections municipales et les élections présidentielles se profilent, à chaque fois que j'ai la chance de pouvoir intervenir, moi, mon propos, c'est de dire faites-vous confiance. La façon dont vous allez intervenir est la bonne. À partir du moment où vous vous rappelez de ce pourquoi vous vous engagez, vous vous rappellerez ce que vous avez envie de faire demain, sans vous renier. Il n'y a pas de mode d'emploi, donc la bonne politique, c'est celle qui vous ressemble, à condition, voilà, de formaliser, de se rappeler des valeurs qui sont les nôtres, celles qui nous portent à vouloir nous engager et à produire de la politique au sens noble du terme. Après, il y a plein de façons de la concevoir, mais effectivement, cette question-là de la citoyenneté, de comment ma voix, elle compte, elle revient systématiquement.
Mmh. Alors, le deuxième...
Il y a un intérêt par rapport à ça.
Oui.
Il y a un grand intérêt par rapport à ça.
Alors, justement, ce qui m'intrigue dans ta bio sur Instagram, c'est que tu dis « Lis-moi si tu es prêt ou prête à te choisir ».
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est... J'essaye de beaucoup mettre en perspective dans le deuxième livre. J'ai beaucoup parlé de questions d'héritage, de ce qu'on nous offre, ce que nos parents, nos familles nous ont donné, le monde de l'éducation et ainsi de suite. Et la deuxième partie, tout cet héritage, qu'est-ce qu'il a comme vocation? Mais il a vocation à nous aider dans la construction de nous-mêmes. Et se construire, ça veut dire aussi, alors évidemment, on a un héritage, mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et cette question, elle se pose dans la construction de soi. Et moi, mon expérience, elle m'a amenée à me choisir moi. Si je veux être utile à la société, il faut que je prenne soin de moi. Et c'est.
Mais alors, pardon, si je peux me permettre, oui. À quel moment tu l'as compris? Et de par ton éducation, ton environnement dans lequel tu as évolué avec tes parents, l'éducation que tu as eue, est-ce que c'était naturel de se choisir?
C'est un cheminement. Comment on passe d'objet à sujet en réalité? Et l'écriture le permet parce qu'elle permet une introspection peut-être plus profonde, parfois plus sincère, parfois difficile. Et c'est quelque chose qui se construit au fil des expériences de la vie. Au départ, l'héritage, quelque part, on le subit. Moi, je n'ai pas conscience, quand je suis gamine, de ce que mes parents vont me donner. Je n'ai pas encore la capacité de verbaliser à travers leurs actions les valeurs qu'ils me transmettent. C'est d'ailleurs tout le travail que je fais avec les scolaires. Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises sans les verbaliser ou sans tenir un grand discours? La question de la dignité, la question, par exemple, de, je sais pas moi, la discipline, le respect, la solidarité. Ce n'est pas forcément verbalisé comme ça. Mais comment est-ce qu'on le comprend? Et finalement, quand on le comprend, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là qu'on va aller décider de piocher, ou pas d'ailleurs, dans ses héritages et décider de prendre aussi derrière des choix peut-être un peu différents. Moi, il y a des choses que j'ai reçues avec lesquelles je suis totalement en phase et d'autres avec lesquelles je suis plus critique. Et c'est là où intervient la construction de soi et que l'on se choisit d'abord et avant tout parce que c'est avec nous-mêmes que nous allons passer toute notre vie. C'est la seule certitude que nous avons. Donc, ce choix-là, moi, il s'est fait au fur et à mesure des expériences, peut-être même davantage, sans doute, à travers l'écriture de mon personnage de Zahra Lahyoun, qui est venu justement phaser ces temps-là. Le temps de l'héritage, le temps de la construction de soi et celui de la responsabilité collective, individuelle puis collective. La vie qu'ils ont eue, la femme que je suis, notre projet, il, je, nous. Et je trouve que c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à le verbaliser, à le comprendre, à me l'approprier et après à le transmettre et avoir ces temps d'échange justement sur comment se choisir, qu'est-ce qu'on fait et ainsi de suite.
C'est comme un mode d'emploi, en fait, de ce que toi, tu as vécu.
D'une certaine façon, oui. Parce que c'est pas ma vie. Je suis d'ailleurs moi-même, pour la petite confidence, personnage dans mon récit.
Oui.
Mais Zahra Lahyoun, c'est à la fois moi, c'est mes sœurs, c'est mes amis, c'est sans doute un petit peu toi, c'est un peu tout le monde. C'est un personnage qui est imaginé, mais qui est inspiré de l'expérience d'énormément de personnes. Souvent, on m'a dit d'ailleurs, est-ce que c'est une politique, c'est une autofiction? Non, c'est une fiction économique, sociale et politique, mais ce n'est pas moi. Mais elle me ressemble énormément, mais comme elle ressemble aussi aux journalistes qui m'ont posé la question, parce que parfois, ça fait écho à leur propre existence. Et c'est vraiment ce que je recherchais. Cette zone floue, on se demande si c'est moi, si c'est quelqu'un que l'on connaît, mais ça me rappelle ma propre histoire, et ainsi de suite. C'est vraiment, on va dire, l'épaisseur que je souhaitais donner à mon personnage principal.
Et justement, le fait que ça pose tellement de questions, que ça suscite cet intérêt, est-ce que c'est véritablement un véritable récit ou une fiction, c'est qu'il y a beaucoup de réalités que tu as ramenées dans ton récit. Beaucoup de vécu.
Il y a beaucoup de vécu. Il y a beaucoup de vécu aussi des femmes et des hommes de mes entourages, de mes amis. À chaque fois que j'ai construit un personnage, il s'est fortement inspiré de personnes que j'ai connues, dans les bons comme dans les personnages un peu plus intrigants, voire pas très sympas. Mais c'est ce côté vraisemblance que j'ai volontairement souhaité mettre en évidence. Je voulais que ça interpelle, en me positionnant sur les défis d'aujourd'hui, les crises que nous vivons, qui traversent nos sociétés, que ce soit en France ou au Maroc d'ailleurs. C'est quelque chose de très fort. Il y a beaucoup de défis, comment on y répond. Aujourd'hui, on croule sous l'information, voire la désinformation, la surinformation. Comment on fait le tri dans tout ça? Et moi, je prends le pari de partir de ce moment extrêmement anxiogène. Et là, je pense encore à nos enfants. C'est extrêmement difficile pour eux d'évoluer dans une société aussi anxiogène que celle-ci. Et là, de se dire à un moment donné, OK, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Les monsieur et madame Irma négatifs de tous les jours nous balancent des informations qui viennent nous heurter ou voire parfois nous mettre en difficulté. Et moi, je propose une autre solution. Et ce « c'est pour demain », c'est de dire, et si on faisait un pas de côté et qu'on laisse de côté celles et ceux qui ont des problèmes pour chaque solution et que nous, on propose autre chose. Mmh. C'est là que la littérature, elle devient intéressante. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du deuxième chapitre, la deuxième partie, on est dans la France et dans le Maroc d'aujourd'hui. Et après, on bifurque vers « et si on faisait autre chose, en fait ?» Ok, on a tout ça. Mmh. Allons au bout de cette expérience-là. Et moi, je vous propose qu'on regarde les choses autrement. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est très souvent les retours que j'ai de mes lectrices et lecteurs. C'est vraiment la troisième partie. On sait que c'est de la littérature fiction parce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui.
Oui.
Et justement, ça permet justement d'ouvrir le champ des possibles. Et c'est là que la littérature, elle est un outil incroyable, justement, d'aller se positionner et d'aller imaginer autre chose que ce qui est proposé.
Alors aujourd'hui, la TEFA, et pour conclure, est-ce que tu te définis, tu te poses professionnellement en tant qu'autrice ? Définitivement.
Je pense oui, parce que le troisième est bouclé, il attend d'être publié, et le quatrième est en cours d'écriture à deux mains. Donc je pense que j'ai encore un bout de chemin à faire avec l'écriture, et j'en suis vraiment, c'est quelque chose qui me réjouit. Parce que c'est une aventure exceptionnelle. Mmh.
Donc là, TEFA Chey, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi.
C'était un plaisir, avec plaisir, là, TEFA. Prends soin de toi.
Merci.
Et au plaisir merci de te lire
beaucoup.
Aussi.
Eh bien, écoute, je n'y manquerai pas de te ramener ton bouquin dès que je viens au Maroc.
Merci infiniment, Inch'Allah. Je t'embrasse.
À très bientôt. Prends soin de toi.
Toi aussi. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.